avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Quel plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence. Aujourd'hui, quelle est l'influence du temps et de la météo sur nos vies? Chaleur, sécheresse, pluie, vent, tous ces aléas climatiques ont une influence sur nos comportements. Dans les entreprises, on travaille mieux les jours de pluie. Un magasin où il fait trop chaud rend son personnel désagréable, irascible avec ses clients. Et surtout, pour une grande partie de la consommation, le soleil ou le froid pèse sur le chiffre d'affaires. Et en ce début de changement climatique, nous n'avons encore probablement rien vu. Faudra-t-il adapter totalement les conditions de travail à la température, par exemple? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur prévisionniste et vous pilotez le service météo de TF1 et vous publiez un nouveau livre, Nous sommes tous météo sensibles, chez Albin Michel. Vous êtes d'ailleurs tellement célèbre comme présentateur météo que vous ne pouvez pas aller acheter votre pain sans qu'on vous demande le temps qu'il va faire cette semaine.
Ça, c'est sûr.
Et donc, est-ce qu'on va enfin sortir de la pluie en France?
On va sortir un petit peu de la pluie, mais on va retrouver un temps un peu plus frais. Donc là, on est vraiment dans une période automnale qui est assez marquée, avec beaucoup de pluie. Et maintenant, cette fraîcheur qui arrive. Donc non, il n'y a pas de franche amélioration pour ces prochains jours.
Mais vous nous le disiez, c'est pas plus mal quand même. Exactement. Après les mois de sécheresse qu'on a connus.
C'est même plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. Voilà. Gabriel Grosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, alors pour vous, les caprices du temps, c'est tout bon finalement, parce que vous avez fondé, vous dirigez Météo Protect, qui est une société qui crée des contrats d'assurance paramétriques, c'est-à-dire en fonction du temps.
Absolument, on fait des contrats qui indemnisent lorsque la météo est anormale. Et c'est vrai qu'elle est assez anormale.
C'est ça, un vendeur de bottes de pluie, s'il ne pleut pas assez, il peut s'assurer chez vous.
Ça serait possible.
Nous serons aussi en ligne à Dakar avec Issa Ouedraogo, chercheur au Centre de recherche sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Il est coordinateur d'un projet qui permet aux agriculteurs de recevoir des informations climatiques via des SMS. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous quelle est votre humeur en fonction du temps et au travail aussi. Est-ce que votre métier peut être perturbé par le climat ? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le WhatsApp pour nous laisser également des messages écrits. N'envoyez plus de messages vocaux, on est en direct, on a envie de se parler directement. Et en fin d'émission, Solène Chalvon nous parlera de son reportage auprès des étudiantes afghanes de l'université américaine de Kaboul. Prête à mourir pour étudier, c'est le titre de son enquête pour le journal Marie-Claire. Message tout de suite d'un voisin qui a posté à Brazzaville, Yirika. Il a posté sur WhatsApp.
Bonjour Emmanuel, au Congo Brazzaville. Quand il pleut, nous sommes inondés, on ne peut pas sortir. Tellement que les ruelles, les avenues sont mal faites. Donc il y a une difficulté de se rendre même sur une grande avenue pour prendre le transport en commun ou un taxi ou un bus. Donc quand il pleut, et toute la journée elle est perdue et on est à la maison, on est fixe, on ne peut pas bouger.
La pluie en Afrique et les problèmes d'infrastructure, effectivement, nos voisins connaissent ça. Alors les voisins qui sont affectés par les changements de saison et les aléas climatiques, il y a Nastia qui est à Madagascar qui nous dit que la saison des pluies a commencé ici, mais il n'y a pas assez de pluie. Du coup, l'approvisionnement en eau est arrêté dans de nombreuses parties de l'île. Et même s'il y a de l'eau, elle n'est pas potable. Cela affecte énormément notre quotidien. Rodrigue à Yaoundé, pâtissier, nous dit « Moi, j'aime la saison des pluies parce qu'avec la pluie et le froid, les gens ont envie de manger et cela me permet de vendre mes beignets. » Et inversement, par exemple, la vente de glace, c'est à partir de quelle température, Louis Baudin ?
À partir de 25 degrés. Il y a une bascule à peu près 25-26 degrés où d'un seul coup, le corps commence à avoir chaud. Donc, il a des envies et c'est à partir de là qu'effectivement, la vente des glaces peut augmenter de manière assez spectaculaire. Hein. Ça se fait sur 1 ou 2 degrés, hop, on bascule. Et là, on a envie d'un seul coup, alors que 2-3 degrés en dessous, on ne l'a pas encore.
Ouais. Et la vente du chocolat ?
C'est l'inverse, hein, avec au contraire des températures un petit peu plus basses. Alors, pas forcément très basse d'ailleurs, parce que quand il fait trop froid, il y a d'autres processus qui se mettent en place, mais dès qu'on a une température qui descend sous les à peu près, je caricature parce qu'on n'a pas tous les mêmes réflexes par rapport à la météo, autour de 15-16 degrés, bah oui, on commence à avoir un peu plus envie, ouais, et souvent du chocolat.
15-16 degrés, on met des cols roulés à Dakar.
Ouais.
Hein.
Alors, il y a d'autres phénomènes aussi, parce qu'effectivement, ça dépend des endroits. Ouais. Si on prend la vente de glace, il y a des pays où la vente de glace n'est pas du tout affectée par la météo. Par exemple, en Allemagne, en Angleterre.
Aux États-Unis,
on mange de la glace toute l'année et ce n'est pas du tout affecté. Et si on prend le chocolat, moi, j'aime bien l'exemple du chocolat parce que c'est un exemple qui nous a été pas mal posé chez Météo Protect. Il y a un double sujet. Il y a un sujet d'envie de consommer le chocolat, mais il y a aussi un sujet de dégradation du chocolat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas stocker le chocolat à des températures qui dépassent 23-24 degrés. Et du coup, si on les met au frigo, le chocolat se dégrade. Et donc, on a un double effet, c'est-à-dire à la fois les gens qui ne vont pas le consommer, mais en même temps, on ne peut pas le stocker. Donc, le chocolat va se dégrader et perdre sa valeur.
Allez, vous nous appelez les voisins et les voisines. Quelle est l'influence du temps et de la météo sur vos modes de vie, votre travail aussi, votre activité professionnelle? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Louis Baudin, est-ce qu'il existe un temps, une température idéale pour toute l'humanité?
Alors en tout cas, il y a, et ça l'histoire le montre d'ailleurs, il y a une fourchette de température où le corps s'exprime le mieux, on va dire entre 15 et 23-24 degrés à peu près, c'est là où l'organisme est le plus fonctionnel, où il va donc être le plus productif. Et comme par hasard, si vous regardez une carte du monde, vous retrouvez latitude tempérée, les pays dits, je dis ça volontairement avec beaucoup de parenthèses, économiquement développés. Parce qu'effectivement, ce sont dans ces fourchettes de température que le corps s'exprime le mieux, qu'on peut donc produire, qu'on peut donc effectivement créer des sociétés beaucoup plus rentables. Je ne dis pas que ce soit le plus, ce qui est les valeurs que l'on cherche tous, mais en tout cas, c'est comme cela. Et donc effectivement, il y a quand même une inégalité, une injustice au niveau des températures. Ben, on part assez souvent en vacances quand il fait 30 degrés, 80% d'humidité, on se dit tous, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Sauf que si on devait travailler toute l'année dans ces conditions-là, on se rendrait vite compte qu'on n'aurait pas le même rendement, qu'on ne pourrait pas être aussi efficace et aussi performant qu'à nos latitudes.
Ouais, mais le soleil et la chaleur pour le couple, par exemple?
Ah, alors ça, c'est autre chose. On sort du cadre du travail. Ben, là encore, il y a une fourchette de température. C'est plutôt d'ailleurs quand on dépasse les 20-25 degrés, où le corps commence à ouvrir ses pores et c'est physiologique. C'est-à-dire que c'est un moment où il a envie d'échanger, où il donne des choses. Donc, il s'échange peut-être des molécules, il se passe des alchimies un peu étonnantes. Mais effectivement, ça favorise le contact et les rapprochements.
Et la température idéale pour travailler dans des bureaux, par exemple?
Ah, ben ça, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on dit que la température agréable de vie, de confort, c'est autour de 20 degrés, mais dans une salle de réunion où on va être a priori plusieurs, une salle un peu fermée, oui, une salle où il faudra être un peu concentré, un peu impliqué, il vaut mieux descendre un peu cette température et on pense qu'autour de 17 degrés, ça pourrait être idéal. 17 degrés, d'ailleurs, ça ne le restera pas, puisque avec la chaleur humaine, ça va vite monter. Mais si on part de 17 degrés, il y a l'espoir qu'au bout d'un moment, tout le monde s'endormit devant une torpeur ou une chaleur qui s'installerait.
Ça, c'est pour les hommes?
Oh, hommes et femmes, c'est vrai que... alors. Là encore, hein, c'est vraiment des grands traits parce que ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est que par rapport à la météo, en fonction de sa culture, du moment, de son humeur, de son état physiologique, de sa fragilité ou pas, mentale et physique, on va avoir des comportements différents. Donc, quand on a dit ça, après, dire où est trouver des généralités, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que globalement, on a l'impression que quand même entre hommes et femmes, les femmes sont un petit peu plus... réceptives, je n'allais pas dire sensibles, mais en tout cas aux conditions météo que les hommes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a des hommes très fragilisés parce qu'ils vivent aussi en milieu urbain et puis des femmes qui sont beaucoup plus solides peut-être. Donc, les généralités sont un peu compliquées à faire aujourd'hui.
Ouais, bon, là, par exemple, il fait sûrement un peu trop chaud dans ce studio.
Oui,
parce que
exactement.
Vous avez fait la même réflexion.
Plus de 20 degrés, 22 degrés.
On est arrivé derrière priorité santé. Alors peut-être qu'ils ont monté la température, mais vous dites c'est 20 degrés hein, pour
oui,
être
20
bien,
degrés à peu près.
Bien concentré. Le temps idéal pour vivre en société, dans le fond. Est-ce que les chaleurs rendent... je citais en introduction d'émission une étude qui avait été menée aux États-Unis il y a pas mal de temps déjà, qui montrait que dans les magasins, si on surchauffait le magasin, les employés étaient très irascibles, oui, avec les clients notamment.
Ah ben ça, on en revient toujours dans les magasins. C'est pour ça que malheureusement ou heureusement, on a mis la climatisation. C'est qu'on se rend bien compte que s'il fait trop chaud, on va consommer différemment, pas bien, on va être effectivement irrité. Les rapports humains, donc qui... pourtant, plus ils sont bons, plus vont favoriser une forme de commerce. Je pense que M. Gross le confirmera ou donnera même des chiffres plus précis que moi. Mais en tout cas, ça, c'est certain. Donc, effectivement, Quand on fait du commerce, on a envie de le faire dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi les magasins sont climatisés par rapport à sa demeure, par exemple. Regardez ça. On retrouve ça très, très fréquemment. Et évidemment, il y a cette température quasi idéale, qui est toujours cette fourchette entre 18 et 22 degrés, où on va vivre le mieux. Mais encore une fois, M. Gross l'a très bien dit, ça dépend de là où on vit et de là où on est culturellement élevé. C'est-à-dire qu'on le voit bien, quand on vit dans les pays nordiques, on est capable de se baigner dans une eau à 15 ou 17 degrés, on la trouve confortable. Demander à un Méditerranéen de se baigner dans une eau à 17 degrés, il va avoir du mal, parce que physiologiquement, il n'est pas prêt, il n'a pas été élevé comme ça, et si la température de l'eau ne dépasse pas les 22 ou 23 degrés, il va trouver ça froid. Donc tout dépend également de là où on vit, et donc s'il y a une règle à peu près moyenne, plus on va aller vers le nord, plus on va pouvoir baisser un peu ses critères, plus on va aller vers le sud, plus ça sera l'inverse.
Vous dites que les révoltes sociales aussi ont davantage lieu lorsqu'il fait chaud.
Oui, ben, en fait...
C'est pas le cas pour les gilets jaunes. Hein.
Ouais.
Ça a été comme l'automne et l'hiver.
Ouais. Automne, hiver, où ils ont fait les quatre saisons, quasiment. Non, mais c'est vrai que la chaleur, de toute façon, irrite. Est-ce que vous avez tous fait cette expérience? Vous êtes dans le transport en commun, il fait très très chaud, vous transpirez, donc ça veut dire qu'en plus, il y a des rapports qui sont un peu tendus, vous n'êtes vous-même pas très bien, vous voyez bien que les autres ne sont pas tout. Donc ça, il y a comme de l'électricité dans l'air. On a tous vécu ça. Donc c'est vrai que c'est des moments où tout peut exploser. Et donc, si on rapporte ça à toute une société qui aurait trop chaud à un moment donné, parce qu'effectivement, on a une température qui est très élevée sur plusieurs jours, oui, on peut avoir des comportements un peu plus irascibles ou des débordements. Et ça peut collectivement, parfois, être la petite goutte. Ce ne sera pas le seul paramètre, mais qui va... déclencher effectivement des comportements.
Gabriel Gross, oui, dites-moi.
Je pense que les mouvements sociaux sont très impactés. Enfin, les manifestations, par exemple, le déroulement d'une manifestation dépend considérablement de la température qu'il fait. C'est vraiment des aspects qui sont importants.
Qu'est-ce qu'une entreprise météo-sensible, dans le fond ?
Alors, d'abord, il y a beaucoup d'entreprises météo-sensibles. On considère que quasiment 2/3 de l'économie varie en fonction de la météo. Ça ne veut pas dire que ça varie de façon significative ou que cet impact est très important, mais la météo influence quand même quasiment, vraiment les 2/3 de l'économie. Alors, une entreprise météo-sensible, c'est une entreprise dont on est capable de mettre en équation l'impact de la météo sur ses revenus, ou sur sa structure de coût, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ou sur éventuellement d'ailleurs la continuité de sa chaîne d'approvisionnement.
Par exemple, pour l'agroalimentaire, alors, s'il fait très chaud, on va dépenser plus d'argent pour garder au frais les aliments, la conservation des aliments, etc. Ce n'est pas seulement le consommateur qui est météo-sensible.
Alors absolument. Si on regarde la chaîne alimentaire, on a un enchaînement d'impacts qui sont très différents. Le premier, je pense, le plus fort, le plus important sur le plan économique et sur le plan de la vie des gens, c'est l'impact sur les agriculteurs, sur les producteurs. On a des exemples qui sont très 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 marqués. On a eu il y a deux ans au printemps, on a eu deux nuits où il a fait -1 degré dans la région de Bordeaux. On a perdu 40% de la production de vin à cause de ces deux nuits à -1 degré. Et ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont perdu 100% de leur production, donc 100% de leur revenu annuel.
Et vous, qui sont vos clients? Des gens qui sont dans l'agriculture essentiellement, dans l'agroalimentaire, dans la chaîne alimentaire?
Alors oui, nous on se focalise chez Métoprotex sur la chaîne alimentaire parce que c'est là où il y a le plus d'impact et c'est là aussi où il y a le plus de connaissance de l'impact parce que pour s'assurer, il faut comprendre quel est son risque. Mais la chaîne alimentaire, elle va... des producteurs aux coopératives, ensuite aux négociants, ensuite les industriels de la première transformation, dont les prix des matières premières ou la disponibilité des matières premières peut avoir un très gros impact, et ensuite aux distributeurs, donc le marchand de glace dont on parlait.
Vous assurez un fabricant de sauce ketchup ?
Alors, on travaille avec des fabricants de ketchup, effectivement, sur lesquels il y a plein de sujets, mais des sujets très inattendus. Par exemple, la récolte des tomates, c'est quelque chose qui se fait à des périodes très précises. Et quand vous avez énormément de pluie au moment de la récolte des tomates, vous n'allez pas pouvoir faire la récolte, et donc les usines restent vides. ça, c'est des impacts qui sont énormes. Parce que financièrement, quand vous avez prévu de faire tourner votre usine pendant 2 semaines à plein régime, avec du personnel, etc., et que vous ne pouvez pas simplement parce que vos fournisseurs sont impactés. Et encore une fois, c'est là où c'est la spécificité de l'assurance paramétrique, c'est qu'on peut assurer un risque qui ne se produit pas chez vous. C'est-à-dire que ce n'est pas sur l'usine qui pleut ou qui ne pleut pas, c'est chez les fournisseurs de l'usine. Et c'est là où ça devient compliqué.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On parle du temps qu'il fait chez vous et des conséquences sur l'activité économique, sur votre humeur, sur votre vie quotidienne. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Et on accueille un voisin qui est à Kinshasa. Bonjour Pierre.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Pierre, vous êtes ingénieur. Et vous avez des problèmes sur vos chantiers, évidemment, quand il y a de fortes pluies.
Oui, justement, nous, la pluie n'est pas la bienvenue. Voilà, dans notre domaine particulièrement. On est souvent dans les chantiers. Et ça ne marche pas avec la pluie. Non seulement que ça nous empêche de travailler, mais une fois qu'il a plu, on a du mal pour bouger, pour se déplacer. Il y a déjà des embouteillages, il y a de l'eau partout. Bon, en fait, l'urbanisation n'est pas très, très bonne. Et donc, on a du mal à bouger. Et donc, c'est vraiment un casse-tête. On perd des journées de travail comme ça.
C'est ça, il y a d'abord la perte de temps, hein, donc la perte de production. Ça pose aussi un problème pour la sécurité des ouvriers ?
Oui, justement, parce que l'électricité ne marche pas avec des... D'ailleurs, généralement, dans certaines cités, oui, ici à Kinshasa, quand il pleut, on coupe carrément l'électricité. Parce qu'on craint qu'il y a des fils partout en cours de route qui ne sont pas bien isolés. Et les gens peuvent facilement être électrocutés. Et donc, dans un chantier, on n'a pas suffisamment d'outils vu des conditions qui nous permettent de veiller sur la sécurité de ceux qui sont en train de travailler. Donc, quand il menace de pleuvoir, on fait des prières, hein, pour que ça ne nous empêche pas de travailler. Vu qu'on vit des fois au jour le jour, hein, quand une journée de travail est perdue, c'est le chaos.
Et hein. vous travaillez avec des prévisions météo ou pas ? Ça vous aide ?
Non, pas forcément, parce que bon, on n'est pas déjà habitué à suivre cette météo, c'est ça, je dois le dire. Et même quand on le suit, on est impuissant par rapport aux contraintes quotidiennes de la vie. On est impuissant, on ne sait pas prendre des précautions, on n'a pas suffisamment de moyens pour prendre ces précautions. Des fois, on est obligé d'affronter la pluie, mais avec beaucoup de risques, et voilà.
Merci Pierre de nous avoir appelé. Vous avez dit effectivement le mot essentiel, on se sent impuissant. Quelle difficulté finalement d'anticipation pour les entreprises, et même si on est informé, qu'est-ce qu'on fait ? Là, toutes les entreprises ne sont pas sur un même pied d'égalité, Gabriel Grosse.
Absolument. Enfin, c'est tout le sujet de l'équilibre entre la prévision et l'assurance. C'est-à-dire que d'un côté, si on a des prévisions, on peut quand même anticiper un petit peu et s'adapter, mais on ne peut pas s'adapter au point de régler tous les problèmes. Et si on a, et ça c'est le sujet qu'évoque monsieur, ça existe dans le monde entier et dans beaucoup d'industries, le fait de savoir à l'avance qu'il va pleuvoir, ça ne vous permet pas de remplacer les jours où on ne va pas pouvoir travailler. C'est pour ça en fait qu'on est un peu obligé de recourir à l'assurance, évidemment. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse.
Appelez-nous les...
Oui, alors oui, il y a aussi une grande difficulté en matière de prévision. Moi, en tant que prévisionniste, c'est vrai qu'autour des tropiques, en tout cas dans ces zones-là, la prévision, il faut bien le reconnaître, est plus compliquée à faire, notamment à moyen terme. C'est plus facile à nos latitudes tempérées. Ça l'est un petit peu moins à ces latitudes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du tout de prévision, mais elle reste à court terme. Donc c'est vrai qu'anticiper ou faire un plan de charge ou de sur une entreprise pour 3, 4, 5 jours, très honnêtement, sur les tropiques, en période humide, c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire prévoir les accalmies, prévoir les petites périodes un peu plus calmes, on sait moins le faire. Donc, au-delà des infrastructures qu'il faut préparer, ça c'est aussi une autre démarche qu'il faudra avoir aujourd'hui, pour bien s'adapter à ces conditions météo et permettre effectivement de travailler dans de meilleures conditions. Mais la prévision météo a encore énormément progressé sous ces latitudes pour être un peu plus efficace. Ouais.
Appelez-nous les voisins, surtout si vous travaillez donc dans un secteur météo-sensible, maintenant qu'on a compris de quoi il s'agissait. 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Issa Ouedraogo, chercheur au Centre de recherche sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Bonjour Issa Ouedraogo.
Bonjour, bonjour à tous les voisins.
Vous êtes à Dakar et vous coordonnez un projet qui existe maintenant depuis plusieurs années, le SINSERE, qui permet aux agriculteurs de recevoir des informations climatiques, notamment via des SMS, c'est bien cela, sur les téléphones mobiles.
Tout à fait, tout à fait. Je coordonne un projet qui s'appelle SINSERE. Et SINSERE, c'est Service d'information climatique pour accroître la résilience et la productivité au Sénégal. C'est un projet qui est financé par l'USAID et mis en œuvre justement par le CECAF en collaboration avec l'ANACIM, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie au Sénégal.
Mmh. Et donc ça concerne l'agriculture et la pêche ?
Ça concerne l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui sont trois secteurs clés dans l'économie du Sénégal.
Si pour les personnes qui ne savent pas lire, vous avez développé également un service vocal par téléphone ?
Tout à fait. Après la production de l'information climatique par la NACIM, l'information étant périssable, alors il faut que les utilisateurs aient accès à cette information le plus rapidement possible. Alors au sein de ANACIM, on a mis en place une plateforme SMS qui permet aux gens d'avoir à temps réel les informations climatiques. C'est depuis 2016 et en 2017, on s'est rendu compte que dans certaines zones assez reculées, il y a des gens qui reçoivent les SMS qu'ils ne peuvent pas lire parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Mmh. Cela a amené ANACIM à mettre en place un système vocal qui permet d'envoyer le message en appel vocal en Wolof. Et cela permet aux gens d'avoir accès à cette information directement.
Et au total, vous atteignez combien de personnes aujourd'hui ?
Alors, de façon directe, le système SMS permet de toucher un peu plus de 4000 producteurs et pêcheurs en même temps. Mais de façon indirecte, on arrive à toucher près de 180 000 personnes. Parce que ceux qui reçoivent directement, on les a formés et ils sont devenus des pionniers. Ils ont aussi le mandat de transmettre l'information qu'ils ont reçue à leurs voisins. Et potentiellement, chaque personne qui reçoit peut transmettre à 10, 20, 30 personnes. Mm. Donc globalement, on a pu atteindre de façon directe et indirecte environ 200 000 personnes.
Environ 200 000 personnes, c'est énorme hein, pour tout un secteur agricole, pêche, élevage. Qu'est-ce que font les gens de ces prévisions météo ? Comment est-ce qu'on arrive à anticiper ensuite sa façon de travailler ?
Prenons par exemple l'exemple de l'agriculture. Avant les premières pluies, il y a ce qu'on appelle la prévision météorologique qui est produite et qui est communiquée aux producteurs. Et la prévision saisonnière donne le profil de la saison en tant que telle. Et les informations qui ressortent de là, c'est soit la saison sera normale, sera déficitaire ou excédentaire. Donc ces informations sont très fondamentales et permettre aux utilisateurs de prendre des décisions sur quel type de spéculation il faut faire, quel type de champ il faut utiliser. Alors, en début de saison pluvieuse, il y a les pauses sèches qui sont communiquées, il y a les événements, les alertes pluie, les alertes vent, et ça permet aux gens de se préparer et de décider des dates de semis. Et en milieu de saison pluvieuse, c'est les mêmes informations qui sont données et ça permet aux producteurs de décider de quelle date il faut épandre ses engrais, à quel moment il faut faire le sarclage.
Est-ce que ça veut dire que pour les agriculteurs, vous parliez aussi de spéculation, mais ça c'est un autre domaine, mais est-ce que ça veut dire pour les agriculteurs que ça leur permet de limiter les pertes ou même d'augmenter les revenus par rapport à un agriculteur qui n'a pas accès à ces informations climatiques ?
Tout à fait. Ces informations les aident à prendre des décisions adéquates. Et ces décisions leur permettent de réduire les pertes de leur stock alimentaire. Vous vous imaginez, généralement, en saison de pluie, le producteur, il fait des semis à sec en espérant que dans les 2-3 jours à venir, il va pleuvoir. Et s'il ne pleut pas, c'est une perte et il est obligé de ressemer. Mais quand il a l'information qu'il va pleuvoir demain ou après-demain, alors il peut réserver son stock et puis semer à bon escient.
Gabriel Gross souhaite intervenir.
Oui, je vais juste préciser pour les gens qui sont un petit peu moins habitués, quand on parle de spéculation dans l'agriculture africaine, il s'agit en fait de la culture. Donc, qu'est-ce qu'ils vont planter ? Parce que des différentes plantes ont des résistances différentes et donnent des productions différentes selon les circonstances climatiques.
C'est pas seulement sur le moment de la mise sur le marché.
Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va planter, puisqu'en fait, un agriculteur a le choix en début de saison, dans une certaine mesure, des types de variétés qu'il va utiliser, qu'il va planter. Et effectivement, le fait d'avoir des prévisions saisonnières, ça peut permettre d'adapter sa production. Alors après, ça a un impact sur la consommation. C'est-à-dire que si les gens ont besoin de blé et puis que vous plantez du maïs, bon, ça a un impact. Mais il faut quand même avoir en tête que là, on parle de produire ce qui va être consommé par...
Issa Ouedraogo, dernière question au Sénégal. Oui. Le projet a lieu au Sénégal. Est-ce qu'il y a d'autres pays sur le continent maintenant qui sont capables de fournir ce même type de service ?
Alors, pour le projet Sincère, c'est uniquement au Sénégal. Mais au sein du CECA, on a des projets similaires au Mali et au Ghana. Et au Burkina aussi, il y a d'autres structures qui produisent l'information climatique et qui communiquent.
Merci beaucoup Issa Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Très très bonne journée à vous à Dakar. Et bien sûr, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec... qui on a en ligne ? William. William est en région parisienne. Bonjour William.
Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour aux invités, en particulier à Jules Boudin et aux auditeurs de RFI. Oui, en fait, moi, le sujet m'intéresse parce que moi, je suis agent environnement. Je travaille à la mairie ici à Noisy-le-Roi, dans le 78. Et donc, du coup, tout le temps, on est dehors. Donc, on travaille que dehors. Et la météo, en fait, c'est quelque chose de très primordial. En fait... D'être un peu influente sur nous, sur notre travail, parce qu'il faut qu'on puisse savoir il fera quel temps demain.
Ouais, donc en fait, vous appelez pour que Louis Baudin vous donne le temps prévu. Vous faites de l'entretien d'espace vert, c'est ça, William ?
Non, en fait, oui. Non, le temps, par exemple, d'aujourd'hui, hier, j'ai regardé, il devait faire 5 degrés le matin et il fera 9 degrés l'après-midi, en Ile-de-France. Et on a parlé, bien sûr, de la pluie. Bon, après, là, ça tombe pas encore. Mais nous, on est en train de planter. Là, nous sommes en train de faire des plantations.
Eh bien oui, c'est la saison en France, oui.
Voilà. Et quand on fait des plantations comme ça, et quand il pleut, c'est pas trop agréable de travailler dans la pluie.
Oui, c'est la galère.
Donc, du coup, quand on n'est pas informé sur le temps de demain, et c'est galère. Et même quand on était, c'est pareil. Par exemple, quand il y a eu des canicules, que vous avez connues tous, il y a eu... c'était difficile, en fait. Donc, les horaires devaient être modifiés. On a commencé à 8h, comme d'habitude, pour finir à 17h. Et il fallait commencer à 6h pour finir à 13h, pour éviter que l'après-midi, nous mette devant un gros mur.
Ça pose une vraie question, effectivement, de l'adaptation à la façon de travailler, Louis Baudin.
Ah, mais exactement. Hein, on est là au cœur des changements, de l'adaptation qu'on devra suivre dans les prochaines années. En Espagne, déjà, on a un rythme de travail. On travaille très tôt, on travaille un petit peu moins l'après-midi, on travaille le soir. Il est possible, probable même, qu'en France, on ait parfois adopté ce type de rythme, effectivement, de commencer plus tôt, de finir plus tôt, parce que les températures de l'après-midi deviendront soit dangereuses, soit en tout cas pénibles. Et du coup, pour notamment le travail en extérieur, il faudra s'adapter. Donc, et je pense d'ailleurs que certaines entreprises, certaines mairies ont déjà commencé à le faire parce que c'est simplement du bon sens. Et ça va effectivement dans le sens d'un travail qui soit à la fois plus efficace et quand même un peu plus confortable pour les employés.
Festus a posté ce message de Porto Novo au Bénin. Il nous dit que c'est très difficile de faire cours dans certains collèges à cause des conditions climatiques. À 10 heures, parfois, il fait déjà une chaleur étouffante et même lorsqu'il pleut, ça nous soulage quelques minutes, mais la chaleur revient en force quelques heures après. Très difficile de se concentrer. On repense à vos fameux 20 degrés, idéal pour travailler. Avoir un travail intellectuel. Je pense que les horaires de travail doivent être revus en tenant compte des conditions climatiques de ces derniers temps. Gabriel Gross.
Alors absolument, je voulais revenir sur ce qu'a dit M. William. C'est intéressant parce que pendant la période de canicule qu'on a eue, on a eu deux épisodes de canicule l'été dernier. En fait, il y a beaucoup d'industries en Europe, notamment la construction, enfin tous les travaux de plein air, en fait. Pas uniquement... la partie agricole ou les plantes, mais vraiment beaucoup d'industries dans lesquelles on a adapté les horaires de travail pour pouvoir, en fait, travailler dans des bonnes conditions. Donc, effectivement, les gens allaient sur les chantiers beaucoup plus tôt pour pouvoir faire leur journée de travail correctement.
Est-ce que les entreprises du bâtiment, aujourd'hui, s'assurent contre le risque de canicule l'été et contre les retards accumulés sur les chantiers ?
Alors, il y a, pour les grandes entreprises, il y a effectivement une caisse mutuelle d'assurance qui couvre les intempéries, qui couvre les retards en fait qui sont liés aux intempéries, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans lesquelles ils sont obligés d'interrompre les chantiers. En revanche, il y a beaucoup de régions du monde dans lesquelles ça n'existe pas. Nous, on a été interrogés sur au Moyen-Orient sur des chantiers dans lesquels, quand il fait plus que 40 et 50 degrés, c'est très difficile de continuer.
Gabriel Gross, vous restez avec nous, Louis Baudin aussi, et vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On accueille Modeste qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Modeste.
Bonjour.
Modeste, vous êtes guide Bonjour. Touristique.
Allô ?
Oui, Modeste, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes bien guide touristique ?
Oui, comme je l'ai dit, je suis un guide touristique.
Et votre travail est affecté par la chaleur et depuis quelque temps, vous ressentez le changement climatique ?
Oui, c'est effectivement ça. Mm-hmm. Le changement climatique, ça affecte vraiment le secteur touristique au Bénin. En effet, nous avons la température qui devient de plus en plus élevée. En temps, par exemple, en 2012, en saison sèche, la température variait entre 24 et 27, 28 au plus. Mais là, actuellement, là où je vous parle, la température est de 31 degrés à Cotonou. Donc, aussi, il y a la pluviométrie qui devient de plus en plus imprévisible. Et des fois, vous avez l'information à la radio ou à la télé que la journée serait ensoleillée et boum, quelques heures après.
Ça veut dire que du coup, vous avez moins de clients pour des randonnées, par exemple ?
Oui, forcément, puisque les randonnées, vous savez, c'est pendant la journée, et ça se fait. Et les programmes ici, c'est des trucs qui sont établis d'avance. Et quand, déjà à partir de 9h, vous avez le soleil qui est au zénith, et forcément, ça dérègle le programme et vous êtes obligé de changer ce programme-là. Donc, ce n'est pas forcément au bout d'être rien.
C'est un vrai problème, effectivement, que vous posez. Merci beaucoup, Modeste, de nous avoir appelé. Vous êtes nombreux à poser cette question. Comment est-ce qu'il faut réorganiser le travail, finalement ? Parce que proposer des randonnées de nuit, bah, peut-être que ça arrivera, hein, je ne sais pas. Mais ça bouleverse, en tout cas, la façon de proposer des produits à des consommateurs, de proposer des activités. Tout est impacté, finalement, Louis
Baudin. Oui, tout est impacté et ça veut dire qu'il faut revenir ou être plus que jamais au contact de cette nature et de s'y adapter. Et donc, c'est vrai que si, je pense, ces dernières années, on a eu cette dérive où on a voulu se mettre à l'abri de tous les phénomènes météo, avec les climatiseurs, en s'enfermant, en se mettant à l'abri, avec des chauffages de plus en plus performants sous beaucoup de latitude, il faut aujourd'hui qu'on retrouve un rapport un peu plus sain. D'abord, on va en avoir besoin pour émettre un petit peu moins de CO2 et probablement avoir un peu moins d'impact. Et puis ensuite, parce que, qu'on le veuille ou non, si on s'éloigne trop de la nature, on va créer des déséquilibres qu'on n'arrivera pas à compenser. Et notamment dans ce rapport que l'on a quand on est en extérieur, il va falloir retrouver des comportements et un petit peu plus de bon sens. Donc oui, dans des périodes de forte chaleur, si ça se confirme, mais il faudra probablement organiser l'économie, le travail et même les loisirs par rapport à cette température. Donc partir plus tôt le matin, finir, avoir peut-être des activités à la mi-journée plus à l'abri ou des phases de repos parce qu'on travaillera un peu plus longtemps, le matin et le soir, ouais, mais c'est certain.
Il faudra espérer qu'il n'y ait pas des temps de transport trop importants aussi du domicile au lieu de
travail. C'est une adaptation totale, c'est toute une société qui doit s'adapter.
On n'a pas encore parlé des sportifs, vous en parlez pas mal d'ailleurs dans votre livre, Louis Baudin. Mallet a 25 ans, il nous poste le message suivant, il est joueur de football professionnel au sein de l'équipe centre de formation de Mounana au sud-est du Gabon, et il nous dit « Moi, je suis sénégalais, il pleut plus ici au Gabon, hein, forcément. Je ne suis pas habitué, je rate parfois le bus du club à cause de la pluie. Et quand on joue les matchs sous la pluie, c'est compliqué pour moi parce qu'on peut se blesser, le terrain est lourd, on glisse. On ne sent les blessures qu'après les matchs. Et les matchs ne sont jamais annulés quand il pleut. » Bah oui, pour cause, les autres sont davantage habitués. Et comme la pluie est assez récurrente, effectivement, si on commence à annuler les matchs quand il pleut au Gabon, ça devient compliqué. Et puis également aussi, on avait un auditeur qui est professeur d'éducation civique, d'éducation de sport, hein, à Garoua au Cameroun, qui nous dit que Garoua, c'est dans la région la plus chaude, et quand il fait 40-45 degrés, ça perturbe mon travail, la chaleur me donne des maux de tête en fin de journée. Est-ce qu'aujourd'hui...
Oui. Alors du coup, là c'est intéressant de revenir sur... Je suis tout à fait d'accord, hein, avec ce que vous avez dit sur l'adaptation. Je pense qu'on a eu cette période où on pensait qu'on était plus fort que la nature. Puis maintenant, on se rend compte que la nature est plus forte que nous, d'une certaine manière, et donc c'est à nous de nous adapter. Là où je voudrais juste ajouter une autre dimension, c'est qu'on parle de température, on parle de pluie. Mais en fait, il y a un autre phénomène qui est important, c'est la conjonction entre la température et l'humidité. C'est-à-dire que la température ressentie et les impacts de la température ne sont pas du tout les mêmes. Quand monsieur parlait des 30 degrés qui l'empêchaient de faire des excursions, et là on parle de 45 degrés, les 30 degrés c'était dans l'humidité, les 45 degrés c'est dans un climat sec. Il faut aussi avoir ça en tête, et c'est encore plus compliqué. Du coup, c'est encore plus compliqué pour les prévisions, évidemment, et pour l'adaptation. Mais ce qu'on voit, c'est que les comportements changent, en fait. Et forcément, peut-être qu'on est dans une période d'adaptation en termes de comportement. La façon de s'habiller change, la façon de se déplacer, les horaires, effectivement, vont changer. Et on doit vivre cette transformation, je pense.
On doit vivre cette transformation, Louis Baudin.
Ah mais totalement. D'ailleurs, moi, mon livre, c'est juste ce fil conducteur qui doit mener à retrouver ce rapport, à retrouver une harmonie avec cette nature qu'on a, voulu probablement mettre en boîte ou dire on va pouvoir en faire totalement abstraction. Ben non, on vit dans cette air, on respire cette atmosphère où que l'on soit sur la planète et on est tous solidaires. Moi, j'aime bien votre émission parce qu'on est vraiment tous voisins. Un météorologue, il apprend ça tout de suite. Moi, si je veux faire une bonne prévision à Paris, il faut que je connaisse le temps à Moscou, à Rio, au fin fond de l'Afrique. Sinon, je ne fais pas une bonne prévision
ici. Pourquoi
cela,
finalement ?
Parce que tout est en interaction. Parce que chaque phénomène météorologique qui se produit à l'endroit du monde va interagir sur les petites gouttelettes d'air qu'il y a de part et d'autre. Et donc, comme cela, ça s'immisce. Donc, si je veux avoir une bonne prévision sur l'ensemble de la planète, et notamment ici, eh bien, il faut que je connaisse le temps sur toute la Terre. Et il n'y a pas de frontières. La météo, les nuages, les frontières, ça n'a pas beaucoup de sens, comme la pollution. Donc, on est tous voisins et voisines. J'aime bien cette rapprochement.
Aujourd'hui, en tout cas, votre métier est plus que jamais pris au sérieux par rapport à une vingtaine d'années. Hein,
Je raconte toujours cette anecdote parce que moi j'ai commencé il y a presque 35 ans et quand je suis météorologue, on me regardait, ah bon, mais c'est un métier ça, tellement on était peu fiable. Et moi je reconnais, j'ai commencé à travailler à Marseille, on faisait des prévisions de Mistral et quand on ne se loupait pas à 24 heures, on était heureux, on disait, oh, ça y est, on y arrive. Bon, aujourd'hui on a bien progressé, je ne dis pas encore qu'on est parfait, hein. Moi la météo m'a surtout appris l'humilité parce qu'on est loin de tout savoir, mais en tout cas on a progressé quand même. Et donc effectivement aujourd'hui, c'est presque l'inverse, il faudrait presque que je sois un devin et que je sois capable de tout prévoir, tout annoncer des jours, voire des semaines à l'avance. Non, on n'en est pas encore là.
Qu'est-ce qui est à peu près possible aujourd'hui en termes de
prévision ? Moi, de mon point de vue, mon expérience en termes de fiabilité et de science, moi, je dirais qu'au-delà d'une semaine, très honnêtement, c'est très aléatoire. La fiabilité, de mon point de vue, n'est pas bonne. Après, on peut avoir des petites tendances sur des températures, mais une prévision qui intéresse, j'allais dire, le citadin, savoir il va pleuvoir, il va faire froid, il va faire chaud, je n'ai pas une réponse formelle au-delà d'une semaine. Et encore, je suis optimiste parce que en ce moment, par exemple, vous dire, tiens, comme il disait, là, est-ce qu'il va pleuvoir dans 2 jours ou 3 jours à Noisy ? Oui, je sais qu'il y a probablement de l'humidité, mais lui dire précisément à quel moment est-ce que toute sa journée va être impactée, non, je n'en suis pas encore capable.
Alors, ça dépend quand même des endroits. Il y a des endroits dans le monde où on a des prévisibilités du climat beaucoup plus grandes. Et enfin, nous, on étudie la prévisibilité du climat parce qu'on ne peut pas assurer, si on sait à l'avance, qu'est-ce qui va se passer. En Australie, par exemple, dans des zones très, très où le climat est très, très continental, ou alors en Russie, d'ailleurs, quand on est très éloigné des fronts océaniques, en fait, le climat est beaucoup plus stable et on arrive à dire 2 mois à l'avance ce qui va se passer, alors pas à la minute près, mais de façon beaucoup, beaucoup plus précise. Alors que dans nos climats océaniques, c'est très, très, très volatile. Et en fait, c'est surtout que la complexité du calcul est énorme et qu'on n'est pas encore au stade où, malgré les puissances de calcul colossales qu'on a, on n'est pas encore au stade où on est capable de prévoir à plus que 5, 6 jours, 7 jours.
Est-ce qu'avec le changement climatique, il faudrait à terme que, là, vous disiez, les deux tiers de l'activité économique sont météo-sensibles, est-ce qu'à terme, toute activité va devoir s'assurer contre le risque climatique
S'assurer, non. On s'assure contre quelque chose qui a un impact qu'on ne peut pas supporter. Si vous voulez, quand vous avez les ventes de vêtements qui peuvent être impactées de plus ou moins 10%, c'est pas dramatique, plus ou moins 10%, on l'assume. C'est vrai que quand on a une concentration de risques qui est très importante, c'est là où c'est complètement différent. Alors, ce que nous, on voit quand même, c'est que les commerçants, les industriels et les agriculteurs en première ligne sont des experts de la météo. C'est ça qui est devenu intéressant. Ils connaissent la météo beaucoup mieux que nous qui en parlons de façon un peu théorique parce qu'eux, ils le vivent au quotidien. Et quand vous parlez à un commerçant, il va vous dire « Moi, s'il pleut, je vais faire tant. S'il fait beau, je vais faire tant. » Et ils savent parfaitement prévoir l'impact que ça a
et
sur leur activité.
Et on revoit aussi la façon d'achalander les magasins, les vitrines, etc. Et la gestion des stocks aussi.
Complètement. Alors, un des exemples qui est amusant...
Les commerçants ne sont pas bras croisés, fatalistes devant la météo.
Ils sont très actifs là-dessus. En fait, par exemple, à la rentrée scolaire, on sait que si jamais on a un climat d'hiver à la rentrée scolaire, ça déclenche les comportements d'achat d'hiver. Donc, typiquement, les ventes de soupe, qui est un des grands sujets. Alors que si on a un climat encore estival à la rentrée scolaire, ça va décaler de 6 semaines tous les comportements d'achat de produits divers. Et effectivement, les distributeurs s'adaptent.
Ouais, on y est dans la soupe, en tout cas, en France. Louis Baudin, vous avez publié « Nous sommes tous météo-sensibles » aux éditions Albin Michel. Gabriel Gross, Météo Protect. Hein, c'est une société que vous avez fondée il y a 8 ans maintenant, qui crée des contrats d'assurance paramétriques en fonction du temps. Et dans quelques instants, on va parler des étudiantes afghanes à l'université américaine de Kaboul. Ça sera juste après une très belle voix qui a remporté le concours RFI Talent, Céline Banza. D'ailleurs, est-ce que la voix est affectée? C'est ma dernière question. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Alors, est-ce que la voix est affectée?
Oui, en fait, physiologiquement, le corps est affecté par le corps. Donc probablement, je ne suis pas un spécialiste, mais la voix aussi, oui.
Terembi, Céline Banza.
Terembi, Terembi. Ni do tiwele terembi terembi ni do tiwele wemetene tembi ni do mabekongo ni la moye nadungo nadungo tembi wali Nila moye nadungo nadungo tembe wali Modo nangu nuchitere wangu nutembe kaya Modo nangu nuchitere tembe kaya wangu nutembe kaya Mono Oh.
Terembi, Céline Banza, elle est congolaise. Elle a remporté le prix RFI Talent. Vous êtes bien chez 7 milliards de voisins, en direct sur RFI. Et comme chaque mois, on donne la parole à notre partenaire, le journal Marie-Claire. Bonjour Solène Chalvon.
Bonjour.
Vous êtes reporter, vous collaborez aussi à RFI d'ailleurs, et vous signez ce mois-ci dans le journal Marie-Claire un reportage auprès des étudiantes afghanes de l'université américaine de Kaboul, prêtes à mourir pour étudier. Vous avez pu rencontrer ces étudiantes ?
Oui, tout à fait. En fait, je les ai rencontrées même à plusieurs reprises parce que pour pouvoir travailler sur cette université, qui est donc une université, vous avez pu le voir, qui est extrêmement sécurisée, hein, on dit que c'est l'université la plus protégée du monde, il faut montrer patte blanche au début, il faut se faire accepter, surtout quand on est accompagné d'un photographe. Donc j'ai eu l'occasion pendant 2 ans en fait, de faire des allers-retours dans cette fac jusqu'à avoir enfin l'autorisation d'y faire un reportage.
Qui sont ces jeunes filles qui étudient à l'université américaine de Kaboul ?
Alors écoutez, c'est une question intéressante parce que justement ce qui est assez unique dans cette université, c'est qu'on pourrait imaginer que parce que c'est une des meilleures du pays, elle regroupe des jeunes femmes qui soient surtout issues des classes urbaines, hein, des jeunes femmes occidentalisées ou en tout cas venant de milieux assez élevés. C'est pas du tout le cas parce que c'est une fac qui insiste beaucoup justement sur le fait de regrouper des jeunes femmes qui viennent des provinces éloignées et très souvent d'ailleurs des provinces qui sont aujourd'hui aux mains des talibans. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de femmes de Razni, d'Helmand, enfin de noms qui n'évoquent peut-être pas grand-chose, mais qui sont des provinces extrêmement conservatrices.
Mais les familles ont permis à ces jeunes filles de venir étudier à Kaboul, dans une mixité alors, d'ailleurs, parce qu'il y a des étudiants sur ce campus.
Alors, non seulement dans la mixité, mais il faut bien comprendre que effectivement pour une famille afghane traditionnelle, d'envoyer sa fille étudier dans un endroit en dehors de toute vigilance, de tout contrôle familial, et où on sait qu'il va y avoir des hommes dans le même espace, c'est complètement extraordinaire. Alors il y a beaucoup de familles. Il y a des familles qui acceptent, clairement j'en ai rencontré, hein, qui font mine de ne pas trop s'y intéresser, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont évolué sur la question de l'éducation des filles en Afghanistan hein, depuis les 17 dernières années de l'intervention internationale. En revanche, il y a aussi beaucoup de parents qui interdisent complètement ce genre de système à leurs filles et du coup qui ne savent pas que leurs filles étudient là-bas. Qu'elles font en fait, elles, les stratégies de contournement qu'elles adoptent pour continuer d'y étudier, c'est en fait elles disent à leur famille qu'elles étudient par exemple dans une école d'infirmière ou dans un institut de couture. Et voilà, elles bénéficient en fait de la complicité hein, par moment même des gens de l'université, des cadres qui gardent ce secret.
C'est ça, parce que l'université est très fermée, hein, vous le disiez, pour des raisons de sécurité. Donc à l'intérieur, derrière les murs de l'université, c'est une vie quasiment normale pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons.
Normal, c'est vraiment pas le qualificatif que j'utiliserais. Oui, normal, parce que c'est une fac, parce que les classes sont fermées, parce que c'est silencieux pendant les cours. Donc oui, normal, parce que c'est une vie de fac avec des associations étudiantes, etc. Mais c'est tout sauf normal dans la mesure où, d'abord, c'est encore une fois, c'est un îlot de liberté à l'échelle de l'Afghanistan qui est inouï. C'est-à-dire que vous avez des jeunes femmes et des garçons qui sont assis sur l'herbe, qui discutent ensemble, qui jouent au ping-pong, qui échangent à la cafétéria, des filles qui ne sont pas voilées. Enfin, ça, ça n'existe pas hein, dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas normal non plus. Il ne faut pas oublier que vous avez des hélicoptères, un hélicoptère fréquemment qui patrouille au-dessus de leur tête. Il y a des très, très grandes tours de contrôle qui émaillent tout le campus, des tours oranges comme ça, qui sont très imposantes, un peu glaçante. Donc toute cette sécurité, et puis des hommes qui patrouillent en armes, donc toute cette sécurité, elle donne plutôt un décor fantastique à l'université, ouais.
Et ça parle forcément politique, puisque le pays est toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Solène Chalvon. Ce reportage est à lire. Très belle photo aussi de Sandra Caligaro. Merci beaucoup, Solène Chalvon. Donc, c'est dans le Marie-Claire du mois de novembre. Très bonne journée à vous. 7 milliards de voisins, c'est terminé. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des seniors. Qu'ont-ils à transmettre dans ce nouveau monde si incertain. Voilà, ça sera la fête des papis et des mamies. Et vous pouvez bien sûr nous appeler pour nous parler de 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins et les voisines. RFI.